En fait, comment ça se passe avec Boat for People et l'autorité des Nampé, tout ça? Donc, quelles sont leurs opinions sur votre association et votre pensée? Donc, est-ce qu'ils vous soutiennent ou ils sont tout à fait la traversée de la mer?
Oui. C'est une question très intéressante, en effet, parce qu'on y avait beaucoup réfléchi avant. On avait essayé de peser le risque qu'on nous interdise d'accoster à tel endroit ou qu'on nous contraigne à certaines choses. Mmh. En fait, jusqu'à présent, ce qui a été joué par les différentes autorités, tant italiennes que tunisiennes, c'est de nous autoriser à aller où nous voulions aller, mais évidemment qu'on est quand même sous haute surveillance. Alors, c'est pas que l'enjeu de Boat for People fasse peur et fasse trembler les États ou l'Union européenne, mais quand même, on sent bien qu'on est surveillé au sens où, par exemple, alors, en Tunisie, c'était assez drôle parce que sur le port où on est arrivé, donc on avait la situation suivante: on était en territoire tunisien, c'est les eaux territoriales tunisiennes, à Kiev c'était la Tunisie, mais le bateau, lui, il bat pavillon italien, et donc le bateau, il est territoire italien. Et alors, comme en Tunisie, c'est un délit d'émigrer, je disais tout à l'heure, on n'a pas le droit de quitter son pays sans autorisation, du coup, s'est posé la question par la police tunisienne. La police tunisienne a commencé à dire: ah mais oui, mais alors non, les Tunisiens qui sont à quai, les militants tunisiens qui voulaient monter sur le bateau, ah ben non, ils n'ont pas le droit de monter sur le bateau parce qu'ils ne sont pas autorisés à entrer en territoire italien. Voilà, donc il y a eu des histoires comme ça. Pour le départ du bateau de Monastir, au moment où il devait partir vers Lampedusa, les policiers avaient prévenu qu'ils seraient là à 11h pour assister au départ du bateau, qui devait partir à minuit, et ils sont restés vraiment jusqu'à minuit. Et même plus tard que minuit, jusqu'à 2h du matin, le bateau a pris 2h de retard sur son départ parce qu'ils se sont mis à vouloir inspecter le bateau, vérifier qu'il n'y avait pas de passagers clandestins. Ils savaient très bien que probablement nos organisations, on n'allait pas s'amuser à prendre un passager clandestin dans la cale. Quoi. Mais ils ont fait un peu de spectacle, un peu de théâtre. Quoi, disons.
Oui, juste donc, pour vous mettre les pieux, je dirais, donc les bateaux dans les roues, quoi.
Pour bien signifier qu'ils étaient là, ils contrôlaient, etc. Et de la même façon, en Italie, lorsque le bateau est arrivé là à Lampedusa, il y a des règles maritimes, enfin des règles de droit de la mer, quoi, qui prévoient que quand un bateau accoste, les passagers étrangers doivent être enregistrés, etc., etc. Donc c'est prévu, les gardes-côtes doivent savoir qui vient d'arriver sur le territoire. Et là, l'enregistrement de l'arrivée des personnes et les tampons sur leur passeport, etc., ça a mis 2 heures. Et les gardes-côtes ont dit: ah oui, mais vous comprenez, vous êtes nombreux. Et en fait, il y avait 6 personnes, quoi. Ils ont eu 2 heures pour mettre 6 tampons sur des passeports. Voilà.
Bah, 20 minutes par tampon, c'est quand même tout à fait raisonnable comme temps.
Absolument.
Ah oui, mais normal, quand il faut toujours réfléchir comment mettre les tampons, donc comment faire tout. Donc, c'est assez raisonnable, oui.
Et pour revenir sur ce que disait donc la question de Sekouba sur les relations avec les autorités, moi, il y a une chose qui m'a tout à fait frappé quand j'ai lu quelques-uns des articles, hein, parce qu'il y avait pas mal de journalistes avec vous, notamment Karine Fouteau de Mediapart. Oui, je crois qu'elle n'était pas sur le bateau, mais qu'elle a suivi le...
Elle est venue à la conférence de presse, elle a interrogé beaucoup de gens, elle a suivi de très près, elle a fait un très bon papier.
Voilà, donc il y a des très bons papiers qu'on peut lire sur Mediapart, et il y avait aussi Marie Barbier...
De l'humanité
qui était là, qui a fait des papiers aussi qui sont vachement intéressants. Ouais. Et moi, une des choses qui m'a surpris en lisant ces papiers, où j'ai retrouvé des choses qu'on a vues exactement de façon très proche dans le Nord et dans le Pas-de-Calais pendant le Jungle Tour, c'est que, eh bien, finalement, les autorités locales, hein, les mairies, sont plutôt... On a l'air d'être plutôt, enfin, d'avoir votre opération plutôt en sympathie, et qu'on voit, alors que les médias nous ont beaucoup parlé de mouvements de rejet, de pierres qui étaient jetées contre les migrants, etc., ça révèle aussi finalement une certaine sympathie, une solidarité avec les gens qui passent, avec les migrants.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que, par exemple, c'est intéressant de voir qu'en Tunisie, dans la Tunisie d'aujourd'hui, qui est une Tunisie en transition, bien entendu, c'est frappant de voir qu'aussi bien à Tunis qu'à Monastir, pour les Tunisiens, l'expression « liberté de circulation » est vécue comme une évidence. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, et c'est ce qu'on voit par exemple dans certains pays d'Afrique noire, des personnes qui disent « ah oui, mais il ne faudrait pas que tous les Tunisiens s'en aillent, on a besoin des Tunisiens... » en Tunisie, etc. Mais non, ce qui est clair, c'est l'accent est mis sur la très forte injustice qu'il y a à ce que les Européens puissent venir en Tunisie et que les Tunisiens, eux, soient empêchés de le faire. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. On voit que la population locale trouve normal que, et eux-mêmes, les Tunisiens, et ceux qui transitent par la Tunisie, aient cette liberté de circulation, de mouvement. Ça, c'est une chose pour côté sud. Et côté nord, c'est important de voir le nombre de personnes qui, à Lampedusa, témoignent de ce que ils ont l'impression que leur île a été ternie, que l'image de leur île a été abîmée parce que, voilà, ils ont été traités de xénophobes et fachos, etc., alors que des mouvements de solidarité, il y en a eu au travers des années, que la maire actuelle, mais pas seulement elle, ont exprimé de différentes façons leur soutien. J'ai visité cet après-midi avec quelques membres de Vote for People le cimetière de Lampedusa, dans lequel certaines tombes ont été faites, et donc avec tout à fait officiellement, avec l'accord et le sceau du maire, en mémoire donc de corps, de personnes qu'on a retrouvées, dont on ne sait rien, sauf qu'elle avait à peu près tel âge, qu'elle était de tel sexe, qu'elle a échoué tel jour, etc. Et il y a une très très jolie formule qui est mise dans ce cimetière, qui dit que cette jeune vie s'est perdue au moment où elle affrontait le voyage de l'espérance en quête d'un futur meilleur. Oui. C'est ça qui a été gravé sur les tombes anonymes de ces personnes. Et voilà, c'est assez évocateur de la façon dont il y a une sympathie, une solidarité. Bien sûr, on trouve aussi des gens qui sont... On a rencontré aussi un pêcheur qui disait « Nous, on a fait la guerre aux migrants parce qu'ils voulaient mettre le feu aux maisons et après, ils auraient fait sauter l'île. » Voilà, on entend aussi ça, bien entendu, comme partout, comme à Calais. À Calais, il y a des gens qui depuis 3, 4, 5, 6 heures en font une soupe populaire tous les soirs. Et puis, il y a des gens qui tirent à la carabine sur les migrants. Voilà, il y a de tout. Mais c'est important de voir qu'en effet, la population, et ça a été vu aussi à Paris hier soir, il y a eu un petit lâcher de bateau là sur le canal Saint-Martin.
Oui, c'était juste en face de du jardin de Villemain.
Et... Exactement. Et voilà, et il y a beaucoup de gens pour qui liberté de circulation, c'est un slogan qui paraît évident, naturel, consister à un droit de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui trouvent anormal dès qu'ils l'apprennent. Alors au début, beaucoup de gens l'apprennent comme une surprise. Comment ça se fait que mon beau-frère n'est pas le droit de venir? Comment ça se fait que telle étudiante n'est pas le droit de venir? Et puis petit à petit, il y a des gens qui découvrent que c'est pas une situation particulière, que c'est pas un bug qui s'est passé dans l'administration pour la personne qu'ils connaissent, mais que c'est beaucoup plus général que ça comme situation, et ils trouvent ça anormal. Oui. Donc on peut espérer que peut-être les choses vont s'infléchir, sans être exagérément optimiste. Je me permets de... Il se trouve que il y avait une jeune compagne de cette interview, normalement, Samira, qui vient d'arriver. Elle a eu un petit empêchement, elle arrive seulement maintenant. Oui. Et je trouvais intéressant, si c'est possible, et si tu vas me dire, qu'elle prenne la parole, parce que elle se proposait d'expliquer un petit peu un des projets particuliers qui a été pensé un peu avant qu'on parte en bateau, qui a été davantage discuté encore aux rencontres d'Archi, et ça concerne l'assistance juridique aux marins. Est-ce que je peux...
Oui, absolument. Oui.
Bienvenue à Samira sur l'antenne de FPP. Et...
Je la passe.
Voilà. Allô, bonjour Samira.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je suis avocate au barreau de Bruxelles, en fait.
Oui.
Et je suis donc membre de Vote for People.
Oui.
Excusez-nous, vous pouvez parler un peu plus fort? On vous attend un peu plus mal. Vous pouvez parler un peu plus fort?
Je peux parler un peu plus fort, voilà.
Voilà, c'est parfait. Oui, donc vous êtes avocat au bureau de Bruxelles?
Au barreau de Bruxelles, voilà.
Oui.
Alors, moi, je suis spécialisée en droit de l'immigration.
Oui.
Et plus particulièrement donc en droit d'asile, je m'occupe essentiellement de personnes... venant de pays en guerre, donc bon, essentiellement des arabophones, puisque je suis arabophone, donc des Irakiens, des Tunisiens, des Algériens. Mmh. Et donc je fais partie de ce projet parce que je pense que c'est un projet qui est essentiel suite à ce qui s'est passé en Tunisie et en Libye, et aux migrants et aux bateaux qui ont été... on va dire, laisser à l'abandon en Méditerranée et suite et toutes les victimes qui ont suivi évidemment ces naufrages et ce qui s'est passé. Donc je pense que vous êtes au courant de la plupart de ces cas.
Mmh.
Et nous, évidemment, suite à plusieurs affaires de boat people en Méditerranée et les déboires des marins qui ont secouru des migrants en danger, on a imaginé mettre en place une assistance juridique.
Mmh.
Puisque en fait, il faut savoir que bon, le devoir d'assistance et de secours en mer, c'est un principe ancestral, mais c'est aussi inscrit dans les conventions des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais en fait, ça vient en contradiction avec la lutte contre l'immigration élaborée par l'Europe et Frontex. Donc aujourd'hui, les marins se trouvent vraiment au milieu d'un...
Oui, coincé, on dirait, on pourrait dire coincé, oui.
Pardon ?
On pourrait dire coincé, il se trouve coincé, donc par rapport à leur acte de personnalité
et de courage. En fait, ils sont pris en étau entre leur devoir d'assistance, qui est aussi un devoir qui est inscrit dans des textes internationaux. Je pense aussi ils ont aussi des cas de conscience parce que c'est quand même, ils ont l'habitude de la mer et de son immensité et de sa dangerosité, donc ils savent très bien ce qu'on risque lorsqu'on est en mer.
Oui.
Et donc lorsqu'ils se retrouvent face à des bateaux où il y a des migrants et on sait dans quelles circonstances ils voyagent,
oui,
ils sont complètement ils ont vraiment des cas de conscience. Alors évidemment, nous on a rencontré ici des pêcheurs qui ont secouru des personnes et nous on a imaginé mettre en place une assistance juridique pour les aider, leur expliquer quels étaient leurs devoirs, leurs obligations, mais aussi leurs droits en fait.
Mmh.
En tant que marin, c'est-à-dire que leur obligation de porter secours, ça s'inscrit dans les conventions des Nations Unies et donc c'est en contradiction avec la politique mise en place par l'Europe et donc Frontex. Et nous voulons absolument leur expliquer qu'ils ont aussi des droits. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cas où, même s'il y a eu des relax dans la plupart des procès où les marins ont été inculpés,
mmh,
ils ont quand même eu des préjudices, en fait, un préjudice économique, mmh, du fait de leur jour où ils n'ont pas pu aller pêcher, le fait qu'on a confisqué leur bateau, mmh, le fait que les procédures ont duré des années. Et donc, évidemment, ils ont eu un chômage technique important et des préjudices qui ont fait que, aujourd'hui, ils se posent la question, s'ils rencontrent un bateau de migrants, est-ce qu'ils vont les aider ou pas? Et nous, en tant que pôle juridique de Boat for People, nous pensons que c'est très important de les tenir au courant de leurs droits dans ce contexte-là.
Ouais. C'est même capital. C'est, on en parlait en tout début d'émission avec Jolène aussi. C'était donc, je pensais notamment à deux pêcheurs tunisiens qui avaient été arrêtés, on a parfaitement reconnu leurs droits, mais leurs bateaux ont été immobilisés pendant 2 ans. Donc les bateaux sont morts, quoi. Ils peuvent plus jamais reprendre la mer.
Exactement. Et donc c'est pour ça que on voudrait mettre en place une assistance juridique. Et il faut savoir aussi qu'il y a des fonds d'indemnisation qu'on aimerait nous. Élaborer et en tout cas voir ce qu'il est possible de faire avec eux pour que ce chômage technique finalement soit quelque part qu'ils soient indemnisés de leur acte. Et on va pas dire que c'est un acte de bravo parce que finalement c'est une obligation de porter secours et donc c'est quelque part c'est un droit pour eux. Et on va dire que c'est tout à fait humain et tout à fait on va dire normal de secourir des migrants en mer. C'est comme si vous passiez à côté d'un accident de voiture et que vous vous disiez que vous allez leur balancer 3 biscottes et que vous allez revenir dans 2-3 jours. Donc
ouais,
évidemment, c'est pas possible de laisser des gens en sachant la dangerosité et les éventuelles conséquences sur leur vie, parce que c'est ça. Hein.
Et ce qui est vraiment interdit, ça, c'est non assistance à la personne en danger.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Et il y a une chose aussi qu'on pourrait peut-être parler avec les gens du Nord-Pas-de-Calais, peut-être étendre ça avec la Belgique, c'est que il y a dans le Nord-Pas-de-Calais l'association des élus hospitaliers qui a été lancée à Nord-en-Fonde par Marc Boulnois. Et ça pourrait être intéressant de peut-être de faire la connexion avec Lampedusa et...
Tout à fait.
Et il y a aussi, le cas de Gibraltar. Hein, on est dans le même, exactement dans les mêmes circonstances en fait. Hein.
Oui, oui, c'est bon. Là c'est un endroit. Sinon, il y a aussi la mer entre la Grèce et l'Italie de l'autre côté. Ce sont des frontières qui sont bloquées. Et on voit la chose. On la voit en Méditerranée. On voit ça au niveau de la mer du Nord et de la Manche. Enfin, c'est exactement les mêmes problèmes qu'on retrouve.
Exactement. Alors que la notion de mer et la notion de frontière, c'est complètement antinomique, en fait. Hein. La liberté d'aller et venir, c'est un droit fondamental. Et les frontières, elles bougent, en fait. Hein.
Oui, ouais, absolument. Bon, bah, écoute, Samira, merci beaucoup. Et puis, nous, notre émission tire maintenant à sa fin, hein, parce qu'on est resté plus longtemps que prévu, mais c'était vraiment très, très bien. Peut-être un petit mot pour conclure, toi ou Violaine ?
Je vais vous repasser Violaine, alors. On
d'accord, écoute, hein. Merci. Merci beaucoup, Samira, et à bientôt.
À bientôt.
Et bon courage pour la lutte.
Allô, oui.
Et allô, Violaine.
Oui, Violaine ?
Oui,
donc notre émission maintenant malheureusement tire vers sa fin puisqu'on est resté plus longtemps que prévu, mais c'est très très bien.
Une autre personne qui, en fait je viens de comprendre, elles ont eu un petit accident de scooter, Samira et l'autre personne qui devait intervenir. J'aimerais bien quand même, si c'est possible, lui donner la parole parce que je trouve que c'est très intéressant ce qu'elle comptait dire. Elle est l'une des moitiés du couple de documentaristes qui est à bord depuis le début du voyage. Donc elle a fait toutes les étapes du voyage et du coup elle a pu observer, c'était son centre d'intérêt particulièrement aussi, la vie à bord et les relations entre les gens à bord avec les différentes personnes puisque c'était des personnes différentes qui montaient à bord à chaque étape. Et elle a une réflexion qu'elle a élaborée à partir de ça sur l'intérêt de ça et j'aimerais bien lui donner la parole maintenant. Elle s'appelle Nathalie Loubert. Est-ce que je peux te faire
pas de problème. Bienvenue. C'est donc Nathalie.
Nathalie Loubert, je te la passe.
Nathalie Loubert. Allô. Ok. Allô, Nathalie?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour et bienvenue sur l'antenne de FPP, hein, dans l'émission RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris, mais je pense que depuis Lampedusa, vous pouvez nous écouter sur http://rfpp.net.
Oui.
Voilà, donc tu suis le Boat for People depuis le début.
Oui.
Et on t'écoute avec plaisir.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai participé avec enthousiasme à cette opération et je me suis rendu compte que c'était une idée extraordinaire, cette idée de bateau. Ça peut effectivement paraître un peu étrange, pourquoi aller revendiquer les droits des migrants sur un bateau. Et en réalité, je pense que c'était la bonne idée de cette opération parce que la vie sur un bateau, c'est un formidable catalyseur et un formidable accélérateur au niveau des relations humaines. Et tous ces gens qui viennent d'horizons différents, de pays différents, avec des fonctions différentes, qui se retrouvent pour un temps rassemblés dans ce petit espace qui est un bateau, dans l'intimité de ce qu'il y a à faire au quotidien, à manger, vivre ensemble, etc. Et parler, bien sûr, parce que sur un bateau, il y a une fois que les choses quotidiennes sont faites, il y a beaucoup de temps pour parler. Et du coup, ça crée des liens assez extraordinaires et du coup, des synergies tout à fait intéressantes. Et je pense que cette planète des militants qui revendiquent des droits pour les migrants, elle se consolide de cette façon. Grâce à cette expérience, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître et voir, à mon avis, se poursuivre. On sait que dans ce travail militant, le travail de réseau est extrêmement important et la mise en synergie de toutes les énergies pour se battre dans le même sens, c'est extrêmement important. Et le bateau est un formidable accélérateur par rapport à ça. Moi, j'ai pu être témoin de ça, témoin et acteur, j'ai eu ce grand privilège. Et je dois dire que j'ai observé et j'ai participé à ça. J'ai beaucoup appris, justement, sur ce pouvoir qu'a le bateau de fédérer, de faire dialoguer,
oui.
D'apprendre à vivre ensemble, de créer des liens. Et voilà. Donc, je suis vraiment tout à fait convaincue par la pertinence de cette opération et ça me donne même des idées par rapport à d'autres choses. Voilà, d'ailleurs, le capitaine de ce bateau, lui, n'est sûrement pas surpris de ce qui s'est passé à bord de ce bateau, puisque lui, il participe à beaucoup d'opérations avec des publics, des charités, des toxicomanes, etc. Bon. Et donc, ces effets de groupe créés par le bateau, lui, il connaît ça très bien. Mais ce que j'ai découvert, c'est comment on pouvait s'en servir comme force de frappe.
Ouais,
et ça, c'est vraiment très, très intéressant.
Et c'est, une chose, c'est des choses qu'on devrait pouvoir mettre en regard ou mettre ensemble, parce que avec le Jungle Tour qui avait la même thématique mais sur le Nord-Pas-de-Calais et un peu en Belgique, on se rend compte de la même chose avec le vélo aussi. C'est
Ah oui, c'est possible, oui, tout à fait.
Voilà.
C'est vrai que le bateau exacerbe encore, parce que effectivement, on est vraiment une petite coque de noix sur l'océan, on se sent bien petit par rapport à cette immensité. On a tout à fait la conscience d'appartenir à une même terre et à être voilà, des gens qui poussent en commun dans un sens. Il y a même, je dirais, du point de vue du film qu'on est en train de faire, ce bateau qui va de l'avant avec à bord tous ces gens. Je pense que c'est très symptomatique de tout ce qui passe à bord, quoi. Cette façon de pousser tout dans le même sens, avec chacun nos armes, chacun nos différences. Voilà, ça produit, et en plus, c'est extrêmement joyeux. Et ça, je trouve que le militantisme doit être joyeux. La révolution sera joyeuse, on ne sera pas. Voilà. C'est pas le militantisme, comment dire, plateau, voilà, où il faut faire du mal pour faire du bien. Non, non, on est tous dans quelque chose d'extrêmement joyeux, même si c'est très sérieux et même si la cause qu'on défend est extrêmement dramatique. N'empêche pas cette joie qui produit aussi de l'énergie positive.
Voilà. Et donc je suppose que vous en avez fait un film, enfin que vous êtes en train d'en faire un film et qu'on le verra donc bientôt, et en tout cas on en reparlera ici un peu avant, un peu après.
Ah ben avec grand plaisir.
D'accord.
Voilà, donc là notre émission maintenant est presque terminée. Donc si quelqu'un parmi vous peut dire un mot pour conclure, parce qu'il nous reste 3 minutes.
D'accord, donc je vous repasse Violaine et donc 3 minutes pour conclure.
D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. Allô Violaine?
Oui,
Isa. Oui, donc je rappelle qu'on est sur l'émission RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue. Et qu'on peut nous écouter donc à Lampedusa ou à Grigente ou même à Monastir sur http://rfpp.net. Donc maintenant notre émission elle est presque, malheureusement presque terminée. Il nous reste 2-3 minutes, si tu peux nous dire un dernier mot pour conclure.
Écoute, un dernier mot, ça me paraît important de parler de la suite, et d'une des choses qui sont programmées pour la suite, c'est l'opération Watch the Med. Il y a déjà un site sur lequel les gens peuvent aller voir de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, c'est de l'observation civile. L'idée, c'est que, évidemment, nous, activistes, aussi nombreux soyons-nous, et même si on faisait du crowdfunding, comme on dit, de la recherche de fonds intensément, on ne pourrait pas avoir des bateaux en mer toute l'année, et de toute façon, en hiver, les bateaux en mer, c'est un peu difficile. Donc, l'idée, c'est de créer un système d'observation civile avec une plateforme permettant à chacun de signaler ce qu'il voit, ce qu'il apprend. Alors, ça peut être des plaisanciers, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font de la voile pour leur loisir, etc. Eh bien, ils pourraient se sentir impliqués dans des actions citoyennes. Et ça, c'est toujours très fort, parce que lorsque il y a des gens qui se demandent toujours par rapport à ces questions migratoires, l'alarme, c'est compliqué, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ou même quand ils sont xénophiles et qu'ils sont pour l'ouverture des frontières, ils se disent, oui, mais comment faire? Et les États, et moi, tout petit citoyen au milieu de l'immensité de la mer, comme disait Nathalie, eh bien là, les petits citoyens au milieu de l'immensité de la mer et de la terre, ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent contribuer, ils peuvent signaler des choses, participer à un travail collectif d'observation civile, et que ce travail soit engrangé, utilisé par des gens qui vont mettre en œuvre des moyens, par exemple ces histoires d'images satellites dont je parlais, et c'est vraiment quelque chose sur laquelle c'est intéressant, je crois, que des personnes puissent œuvrer, se sentir en collectivité avec les autres et participer à quelque chose auquel il, pour lequel il, voilà, il partage avec d'autres un esprit commun, un souhait d'organisation de la planète commune. Ouais. Et un peu différent de celui qu'on a aujourd'hui.
D'accord.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Violette. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là ? Bon vent. Bon, de toute façon, on se retrouve parce que...
C'est tout, bon courage.
Bon courage. Et puis, il y a quand même le lien à faire qui est avec donc, le Jungle Tour. Hein, et ça, ça, on le refera. Je parlerai du Jungle Tour la semaine prochaine.
Absolument.
Et on a fait quand même, et ça, donc on peut retrouver hein, sur le, l'audioblog L'Écho des Jungles, il faut taper Écho des Jungles en un seul mot et on arrive tout de suite dessus, les prises de son et le petit reportage qui a été fait, que j'avais l'intention de passer maintenant, mais que je ne passerai que la semaine prochaine, sur les, le lâcher de bateau qui a été fait à Calais aussi.
Absolument.
Et à Calais, il y avait particulièrement une émotion particulière, parce que d'une part, les gens qu'on trouve, qu'on rencontre à Calais, sont en partie, hein, pas tous, en partie des survivants de la traversée de la Méditerranée. Et qu'avec nous, il y avait une gamine qui avait 15 ans, qui a mis 5 jours à traverser entre la Grèce et l'Italie, qui n'a failli pas traverser du tout. Sa maman est toujours en Grèce, hein, c'est une gamine afghane, et qui pédalait pendant le Jungle Tour. Et qui était là à ce moment-là. Donc ça prenait toute sa dimension...
Ah, c'est très, très beau.
Donc vous auriez pu la rencontrer pendant le Boat for People et bah, on l'a rencontrée, elle est venue pédaler avec nous pendant le Jungle Tour.
C'est super. C'était pas seulement, c'est important de dire que ce n'était pas que le Jungle Tour, c'est vraiment plusieurs organisations calaisiennes qui ont participé à ça, le Jungle Tour aussi, et il y avait Salam, il y avait les organisations qui depuis des années œuvrent à Calais en solidarité avec les migrants. Et voilà, et c'est une très belle opération et on est très heureux que ça se soit passé avec ce lien entre Paris, Calais, la Méditerranée et on espère que d'autres liens avec d'autres pays vont continuer à se faire. Il y a du travail.
Je crois que ça va continuer à se faire et il faudra pousser en plus l'association peut-être, enfin le réseau des maires hospitaliers. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Violaine. Maintenant, notre émission est tout à fait terminée. Hein, on peut pas déborder.
À bientôt, Yves.
Au revoir et à très bientôt. Hein, au mois de septembre, on refait une émission en direct et pas par téléphone dans le studio.
Volontiers.
Voilà. Donc, au mois de septembre, hein, au revoir, Violaine.
Ciao.
Salut.
Voilà, donc, notre émission s'est faite de façon beaucoup plus... un petit peu plus longue que prévu, mais c'était très bien. Hein. On était en direct depuis Lampedusa.
Effectivement, oui.
Lampedusa, donc, c'est une petite île qui est au sud de la Sicile. Et... donc, on pensait que ça durait moins longtemps, ça a duré plus longtemps et ça aurait pu durer encore plus longtemps. Alors, heureusement, notre agenda, il est ridiculement petit et il n'y a que 3 dates à annoncer. La première, c'est jeudi, donc demain à 12h15, c'est le cercle de silence à la Défense, hein, c'est sous l'arche de la Défense. Oui. Vendredi, après-demain, à 18h30, c'est le cercle de silence de Paris, place du Palais-Royal, c'est au métro Palais-Royal. Et du 13 au 22 juillet, donc il faut se dépêcher si on veut aller à Cologne ou à Düsseldorf en Allemagne, c'est le grand campement No Border.
C'est presque la fin. Hein.
Voilà. Donc, eh bien, merci beaucoup Yacouba qui était là.
Merci Yves.
Merci Christophe à la technique.
Et merci à tous nos auditeurs et surtout les intervenants aussi.
Voilà. Et puis, merci à Boat for People d'être venu depuis Lampedusa, hein, à Violaine, c'est pas grave, je me rappellerai du nom tout à l'heure. Et je vous dis donc à mardi prochain, où on reparlera sans doute du Jungle Tour dans l'émission singulier au pluriel. Et on reparlera du Jungle Tour aussi dans l'émission RESF de mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir, salut.
Bon, attendez, RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, réseau éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.